commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Kawabunga, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les
4 vues de la bande FM
en Ile-de-France et en DAB+, et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public au choix, sur notre page, notre compte, notre site, notre appli IDFM Radio. Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, télé, culture pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de Ninja. Petit Manu nous fera découvrir l'histoire des ninjas.
Bonjour Didier, bonjour à vous tous. Et t'as dit le mot Kanunja, ça veut dire quoi Didier? Ça l'intrigue ce mot-là, hein?
Kawabunga.
Kawabunga, voilà. Ça veut dire quoi? Oh, ça a rapport avec les ninjas, j'ai l'impression.
Oui.
Voilà. Bon, Kanunga.
Les tortues.
Voilà, les tortues, rapport avec les tortues. En tout cas, non, plus sérieusement, je vous dirai l'histoire qu'on doit savoir. Très content de vous reconnaître et on va vous reconnaître.
Bon, non, t'as non, pas non. Alzheimer, c'est déjà ça.
Mais non, mais très content.
Je suis très content de vous reconnaître.
Non, non, reconnaître, je voulais d'être parmi vous. Voilà, c'est Kanunja, ça m'a un peu trouvé le mot, voilà.
Kawabunga.
Voilà, c'est ça. Tu dis très bien. Très content de vous retrouver.
C'est exactement ce que t'as dit en voyant Marie-Ève pour la première fois.
Oh, bah tiens, justement, dernièrement, je vais t'en parler, Kevin. Elle a fait une comédienne, elle a fait une voix.
Une chroniqueuse pour celles qui.
Voilà,
celles et ceux qui ne la connaissent
pas. C'est vrai. Et on la salue.
Et on l'a salué en musical, gros bisous. Et pas mal pour t'avoir, Marie-Ève, t'as assuré vraiment. En tout cas, je vous parlerai des tortues ninja, tout ce qu'on doit savoir. Et très content de vous retrouver.
Ninjas tout court.
Non, mais enfin, je vous parlerai.
Mais non, des ninjas tout court.
Tout court, exactement. Tout ce qu'on doit savoir.
Tortues.
Voilà, je vous
parlerai. Les tortues, ça court pas beaucoup.
C'est vrai, ça vit plutôt dans l'eau. Je vous ferai un bon résumé. Bonjour à tous.
Les ninjas forment un mélange de réalité historique et de mythologie. Kassem Zougari, historien des arts martiaux classiques japonais, docteur en civilisation japonaise et attaché historique du musée de samouraï de Berlin, que nous aurons au téléphone, va démêler le vrai du folklore dans un instant. Ponari nous fera découvrir la philosophie des ninjas appliquée au monde moderne.
Salut Didier, salut à tous. Dans quelques instants, je vais vous révéler comment adopter l'art du ninja du bien-être en 5 règles à suivre. Oui, c'est possible, et sans faire de roulade dans le studio. Restez avec nous, on part pour une initiation express au mode de vie ninja, version zen, mais hilarante.
Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz musical sur les ninjas.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et oui, les ninjas ont été aussi des sources d'inspiration pour les artistes qui les ont évoqués à travers leurs chansons que nous allons écouter tout à l'heure.
Eric fera un retour sur la saga des jeux Shinobi.
Salut Didier, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de jeux vidéo dans ma chronique. Eh bien, je vous invite à découvrir ou redécouvrir la franchise Shinobi.
Et quant à moi, je vous parlerai des autres jeux vidéo où on trouve des ninjas.
Ah, la bonne heure, Didier. Ah, et en plus de en parler, il coanime tout, il anime, il produit. Oh, on applaudit très fort Didier. Didier. Un peu comme le moteur d'une belle voix. Voilà,
oh,
vraiment.
Merci.
Oh, ce philosophe, voilà. Mais vraiment, il assure. Il
est en diesel.
En 2026, Manu, ce sera à toi, maintenant.
Oh non. Je te remercie beaucoup, Kevin, mais chacun sa place. Ça, il débrouille très bien, il est top d'un héros. J'ai pas son talent.
T'as raison, ne mélangeons pas les genres.
Voilà, ne mélangeons pas les serviettes et les serviettes comme
on
dit.
On aura bientôt peut-être un autre technicien, quelqu'un d'autre qui fera la technique.
Ah,
vous le connaissez très bien.
Ah bon? Bon, bah, on verra bien à ce moment-là. Oh là là.
Entre légendes et réalités, les ninjas fascinent depuis des siècles. Petit Manu nous révèle aujourd'hui les vraies origines de ces maîtres de l'ombre japonais.
Exactement.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Il arrive. Milton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les ravotas. Non.
Tous les quoi?
Alors, les ninjas. Aujourd'hui, on plonge dans l'ombre et le mystère dans l'histoire des ninjas. Oubliez tout ce que vous avez vu au cinéma. La vraie histoire encore fascine encore plus. Nous sommes au Japon vers le 6e siècle. Le pays est fragmé. Les seigneurs se battent sans cesse. Et dans ce chaos permanent, un besoin crucial émerge. L'information, savoir ce que prépare l'ennemi et connaître ses points faibles et ses alliances secrètes. C'est dans les montagnes d'Inga et de Konga que tout commence.
Konga, Karabonga.
Alors ça s'écrit
ça ressemble au mot
Konga, ça s'écrit C-K-O-G-A. Voilà, Konga, voilà, je préfère prononcer.
Ah, j'aime bien, il y a trois lettres et le mot il fait 12 syllabes.
Voilà, Konga.
T'as pas perdu des lettres entre temps?
Non,
t'as rien perdu.
Non, tout commence. Okay. Ces régions isolées, difficiles d'accès, deviennent le berceau des premiers. Alors, Schnoubi, comme t'as très bien dit.
Schnoubi.
Voilà, comme t'as très bien dit, Didier, vraiment très
c'est
fort.
C'est pas des Schnoubi.
Oui.
C'est des shinobi.
Oui, shinobi, voilà. Oh là là là. Littéralement,
des shinobi.
Ceux qui se cachent, contrairement aux samouraïs qui privilégient l'honneur et le combat frontal. Ces hommes de l'ombre développent notre philosophie, la discrétion, la ruse et l'efficacité. Au 15e siècle, sous des guerres civiles permettant les clans ninja se profilisant. Voilà, c'est ça.
Voilà.
Infiltration, sabotage, assassinat, les seigneurs de la guerre les arrachent. Autrement dit, il n'y avait que des guerres à ce moment-là. Mais attention, ces ninjas ne portaient pas de costume noir comme au cinéma. C'est une invention théâtrale. Faut savoir. Ils s'habillaient comme tout le monde, paysans, marchands, moines. L'art du ninja, c'était pour passer inaperçu. Eh ben, comme quoi, on apprend des choses. Leur âge prend vers 1500, quand le Japon pacifique de guerre, moins d'espions, beaucoup se reconventionnent aux gars et ils deviennent gardes du corps. Et voilà, ces maîtres de l'ombre sont nés dans les montagnes japonaises, bien loin des clichés ou luyens. Donc, voilà tout ce qu'il faut savoir. Comme quoi, t'as vu Didier et l'équipe, c'était pour se cacher, se camoufler. Donc, tout ce qu'on voit au cinéma, il y a une sacrée différence. Et ben en tout cas, monsieur
Dame,
on va en parler, on va surtout développer. Au moins, je vous ai fait un petit résumé. Je te redonne la parole, cher Didier.
Merci, petit Manu.
Je t'en prie.
Les ninjas forment un mélange de réalité historique et de mythologie. Le folklore leur donne des airs de super-héros. On prête aux ninjas la capacité de courir sur l'eau. Alors comment démêler le vrai du folklore? Les recherches sur les ninjas sont assez limitées. Au Japon, l'université de Mi a créé en 2017 le premier centre académique dédié aux études ninja. Il y a aussi des spécialistes comme Kasem Zukari, historien des arts martiaux classiques japonais, docteur en civilisation japonaise et attaché historique du musée de samouraï de Berlin que nous avons au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui différencie les ninjas des samouraïs? On les confond un petit peu. Hein.
À la base, un ninja est un samouraï, c'est-à-dire un guerrier qu'on appelait auparavant donc Mononofu, Bushi, Musha, et par la suite samouraï. Donc c'est un guerrier qui a perdu la guerre, hein, dont l'armée a été décimée.
D'accord.
Et donc pour ne pas se faire attraper et assassiner, donc va se sauver, va se cacher, va trouver dans certaines régions du Japon. Les plus connues, bien entendu, sont les provinces de Iga et Koga, et là va commencer à développer une pratique, une discipline du combat, une stratégie, une vision de la vie, qui va leur donner le nom de Kobi d'abord, hein. C'est plutôt ça, vous avez plusieurs noms,
hein.
Et par la suite on va appeler plus communément connu sous le nom de ninja. Donc en fait, il n'y a pas de différence, hein. Ce sont des guerriers, mais qui vont agir de manière non orthodoxe. Donc vous allez avoir deux types de guerriers, le guerrier qui a le statut de guerrier qu'on reconnaît comme un samouraï, et vous avez celui qui va faire les bases besognes, donc le ninja, voilà.
D'accord, il n'y a pas une histoire de gentil et de méchant, pour
Alors,
faire simple
en fait, Tout ce côté un peu fantasmagorique va être créé pendant la période de Genroku, donc c'est au milieu de la période d'Edo, hein, de 1868 jusqu'à 1704. Vous allez avoir une culture notamment influencée et tenue par les riches marchands, donc où il va y avoir beaucoup de la culture, enfin la littérature va se développer, les estampes aussi. Et à partir des gunkimono, donc des textes et chroniques militaires, où il y aura des ninjas, on va commencer à dessiner, à faire des dessins qui vont le montrer. Et donc on va souvent apposer le ninja méchant de l'ombre,
d'accord,
ou guerrier, samouraï, défenseur de la veuve et l'orphelin. Ce qui n'est pas tout à fait vrai.
D'accord. Et il y a plusieurs sortes de ninjas. Est-ce qu'il y a des grades, des chefs ?
Des grades, non, plutôt des statuts. Vous allez avoir toujours, en général, selon certains textes comme le Bansen Shukai ou d'autres, on les divise en trois rangs. Donc les shonin, chunin, genin. Littéralement, shonin, donc la personne du haut, chunin, la personne du milieu, et genin, la personne du bas. Donc on peut voir, par exemple, le chef de famille, hein, qui est celui qui va donc contracter des alliances, qui va soit choisir de suivre tel ou tel daimyo, donc ou shogun. Puis vous avez les intermédiaires, ceux qui vont donc faire passer les informations aux les actifs, hein, ce qu'on appelle les gens de terrain, ceux qui vont faire les missions, qui vont et à la fois s'occuper de l'espionnage, de la collecte d'informations, de l'assassinat, etc., etc. Donc voilà, vous avez ces trois rangs en général. Voilà.
D'accord.
C'est pas vraiment des grades, hein, mais ce sont des rangs. Donc, en fait, en fonction du statut social, si c'est un chef de famille et le rang dans la famille, hein, fils aîné, fils cadet ou proche de la famille, vassal de la famille, donc vous avez cette distinction qui se fait.
Et il y avait des femmes ninjas ?
Alors, il n'y a pas réellement de sources historiques sur lesquelles on puisse poser vraiment dans l'affirmatif. À propos des femmes ninjas, hein, donc qu'on appelle kunoichi, on trouve le terme dans un texte de stratégie militaire qui s'appelle le Bansen Shukai, hein, qui a été vers 1630. Dans ce texte-là, donc, il est question de femmes. Alors, on n'est pas sûr, mais d'abord, le fait d'avoir des hommes très efféminés qui vont se déguiser en femmes pour approcher un guerrier important ou un général et mener à bien une mission, assassiner, etc., ça existait. Et dire qu'il n'y avait pas de femmes qui étaient capables de faire ça, ce serait un peu être dans la négation totale, ce que je ne suis pas. Donc je pense qu'il y en avait, mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment bien rapporté d'un point de vue historique.
Quels étaient les outils réels utilisés par les ninjas ?
Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a les armes, parce que en tant que guerrier, il devait savoir utiliser plusieurs armes, même s'il pouvait y avoir une familiarité plus avec le sabre ou avec la lance ou quoi que ce soit, en fonction du rôle sur le champ de bataille. En général, sur le champ de bataille, c'était les lances, le tir à l'arc et les armes comme le sabre. Ça dépend quel type de sabre, si c'était des longs sabres ou des petits sabres. En général, on utilisait ça pour le combat proche. Mais ensuite, pour tout ce qui est mission, infiltration, exfiltration, donc il fallait avoir, bien entendu, un matériel adéquat pour pouvoir donc pénétrer, entrer, forcer des portes, forcer des serrures, rentrer sans faire de bruit, lancer un incendie ou une explosion, utiliser de la poudre à canon. Donc il y avait bien sûr des outils aussi agraires qui pouvaient être tournés en fonction de la situation ou de l'immédiateté du combat ou d'une attaque. L'outil pouvait être tourné comme une arme, comme par exemple les kamas, les fossiles et d'autres. Mais oui, il y avait pas mal d'outils. Par exemple, pour tout ce qui était ce qu'on appelle les outils pour grimper, les outils pour préparer un incendie, les outils pour préparer un terrain. Donc, vous avez pas mal d'outils, en général très petits, très courts, qui se portent et qui peuvent aussi être tournés rapidement comme une arme. Ça, c'est très important. D'accord. Il faut que l'outil soit adaptable.
Et on en a parlé brièvement, hein, c'était pas vraiment le cas, mais pourquoi les ninjas sont souvent associés au noir ?
Alors, ils sont souvent associés au noir, encore une fois, ça c'est dû à l'influence, durant cette période Genroku que j'ai parlé juste avant. Donc vous allez avoir une effusion de textes littéraires, de romans, de poésie, et les premières peintures, estampes, donc les ukiyo-e, hein, donc les dessins des mondes flottants, vont être faits montrant le ninja habillé en noir. Donc pourquoi ? Alors, d'abord, il y a le côté un peu mystérieux, le côté que ce que la nuit apporte, et c'est toujours intéressant, c'est toujours attirant. Voilà. Donc, comme ils pratiquaient l'assassinat, que c'était des informateurs, des espions, donc être habillé en noir pour faire la mission, c'était quelque chose d'assez un choix judicieux en fonction des textes qui avaient été utilisés. Donc, de là, ça a touché l'imaginaire, et le ninja habillé en noir est devenu par la suite l'image utilisée par les médias bien plus tard.
Et quelles erreurs reviennent souvent lorsqu'on voit des ninjas dans les films et les séries ?
Bah, d'abord qu'ils étaient habillés en noir.
Ouais.
Parce que en fait, comme je disais auparavant, le ninja à la base est un guerrier, quel que soit le rang, qui a l'expérience de la bataille, l'expérience de la défaite. Et donc, son rôle à partir de là va être avoir le maximum d'informations pour mener sa mission. Une mission, quelle que soit l'obédience ou les liens de vassalité qu'il a. Certains ninjas étaient mercenaires aussi. Donc, pour entrer dans un château, s'infiltrer dans une place forte, aller chercher de l'information, s'habiller en noir, c'est peut-être pas le meilleur vêtement. Donc, il faut connaître comment les gens, les guerriers s'habillent, connaître les usages et les coutumes de l'endroit qu'on va infiltrer. En général, le ninja utilisait un déguisement en fonction des missions. Pour pouvoir passer d'une région à une autre, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait soit les différents vêtements du moine, moine, que ce soit le moine bouddhiste, le moine itinérant, etc. Vous avez aussi, bien sûr, l'habit du guerrier, l'habit du vendeur d'herbe, etc., etc. Donc, pas s'habiller en noir. Le but, c'est d'endurer, persévérer, suivre, comme le rappelle le caractère, de shinobi, nin, mais c'est aussi de passer inaperçu, de faire les choses en secret. Donc, s'habiller en noir ne permet pas de maintenir le secret, surtout quand il fait chaud ou quand il fait beau. Peut-être, durant la nuit, porter quelque chose d'un peu bleu nuit, c'est plutôt la couleur qui était plus utilisée que le noir complet.
D'accord. Et comment est née alors votre passion des ninjas?
Un peu comme beaucoup de japonais, de jeunes japonais, c'est donc bien entendu les mangas, les animés, les films. Donc encore une fois, moi je suis tombé dedans un peu à cause de l'image du kimono noir, des armes, il y a un petit côté Batman, un petit côté Zorro, un petit côté James Bond. Donc voilà, ça a commencé comme ça. C'est quelque chose d'assez infantile, assez de l'imaginaire.
Et vous avez jamais été déçu parce que vous avez réalisé une thèse qui portait sur le développement du mouvement dans les arts martiaux classiques japonais. Est-ce qu'il y a une découverte, un détail technique, historique qui vous a surpris, voire déçu?
Alors, déçu, non, puisque on grandit, on apprend. Je pense que je regarde ça avec un sourire. Je regarde ça avec beaucoup de bienveillance. Il y a quelque chose dans l'ordre du ninja. Pourquoi on aime le ninja? Parce que c'est un peu le super-héros Marvel ou DC Comics, mais avant l'invention de Marvel et DC Comics. C'est-à-dire, il est à la fois Batman, Zorro, il est à la fois Spider-Man, il est à la fois Daredevil, mais bien avant les bandes dessinées de type de super-héros. Et il utilise des armes, des gadgets qu'il invente, il est adaptatif. Il n'a pas vraiment de super-pouvoir, ça reste un homme, donc de ce point de vue-là, c'est déjà bien. Donc voilà, il y a ça qui, c'est ce qui touche en général l'enfant. Au Japon notamment, avec tout ça. Maintenant, non, j'aime beaucoup cette image et j'ai fait des études universitaires, bien entendu, c'est ce qui m'a poussé à faire des études universitaires, vouloir rencontrer des maîtres, étudier des textes anciens. Et non, je n'ai pas été déçu, au contraire, ça nous montre une autre facette de la réalité. La réalité historique, la réalité aussi du mouvement, comment les guerriers fonctionnaient, comment ils bougeaient. Les choses que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a toute une vision du corps, à la fois économie du mouvement, économie de l'énergie, une manière de marcher, une manière de voir le monde extrêmement intéressante qu'on retrouve dans tous les arts martiaux classiques du Japon.
Vous êtes aussi praticien et instructeur de ninjutsu. Quel bénéfice ça peut apporter, cette discipline?
Écoutez, comme toute pratique, comme tout sport, déjà c'est bon pour la santé. Bon pour la santé, attention, faut aussi là bien mesurer comment on utilise le corps. Qu'est-ce que ça peut apporter? Donc tous les bénéfices qui sont bons pour la santé, aussi pour la psychologie. Ça permet aussi d'éviter de trop stresser, de la régulation du stress, de pouvoir aussi se comporter avec les gens, une certaine forme de discipline. Mais c'est pas simplement que dans les arts martiaux, on peut trouver ça aussi dans toute discipline ou bien chose qui nous intéresse. Que ce soit de la peinture, que ce soit de l'art, que ce soit... Ouais. Et il y a quelque chose de profondément humain, je pense, à pratiquer quelque chose qui nous permet de mieux comprendre l'humain et de mieux s'entendre et de créer des ponts avec les autres personnes. Et de ce point de vue-là, une technique de combat qui était utilisée par le passé pour survivre ou avoir des informations, assassinats, permet de mieux se comprendre.
Voilà. Est-ce qu'il y a encore des ninjas professionnels de nos jours?
Alors, on pourrait dire que oui, mais ils s'appellent pas ninjas, ça s'appelle les forces spéciales, que ce soit les SEALs, que ce soit ce qu'on appelle les field opérateurs, donc les agents de terrain dans les services secrets.
Au Japon
Utilisent à peu près la même mentalité et les mêmes méthodologies, à savoir, ils vont pas s'habiller en noir ou quoi que ce soit, mais regardez bien quand on voit par exemple les groupes de forces spéciales à qui on demande d'infiltrer, d'exfiltrer une personne ou d'aller éliminer quelqu'un ou d'aller chercher des informations, ils vont s'habiller d'une certaine manière, en camouflage, ils vont utiliser des armes extrêmement techniques, ils vont baser leurs informations sur d'abord de la surveillance, donc ça existe encore. Maintenant, des ninjas comme par le passé, non, ça n'existe... Je veux pas dire que ça n'existe plus. C'est-à-dire que les textes existent encore, vous voyez, les textes existent encore, il y a des textes qui parlent de ça. Alors après, il faut bien sûr les regarder avec sous différents angles, il faut savoir aussi comprendre le contexte historique, le contexte par exemple des guerres féodales au Japon. Le ninjutsu est né dans le chaos des guerres civiles, mais aussi dans tout ce qui est chaotique. C'est une réponse à un environnement bien précis. Donc le fait de vouloir survivre, de se cacher, de devancer le danger... Ça fait partie aussi du ninjutsu. Donc, je pense que d'un point de vue, tout ce qui est donc les forces spéciales à l'armée ou bien tout ce qui est service secret, utilise bien entendu la même, les mêmes idées. Maintenant, habillé en noir, comme ça, avec un sable dans le dos, enfin, toute l'image un peu est basée sur une littérature. Oui. Non, ça, non, j'y crois moins.
Eh ben, merci, Kassem Zougari.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes historien des arts martiaux classiques japonais, docteur en civilisation japonaise et attaché historique du musée de samouraï de Berlin et praticien et instructeur de ninjutsu.
Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. J'en espère avoir été suffisamment clair.
Alors je vais avoir du mal à le prononcer, petit Manu peut-être qui m'aidera. Le Bazen Shugai est un des textes majeurs du ninjutsu. C'est un recueil datant de 1676 qui compile des techniques, de la stratégie mais aussi de la philosophie ninja. Beaucoup d'écoles insistent sur l'équilibre corps-esprit, la méditation. Des techniques sont enseignées pour gérer le stress, améliorer la concentration et maîtriser les émotions. Donc restez bien concentrés, surtout petit Manu.
Ah, complètement, je te regarde, je suis en face de toi, 5 sur 5, tout va bien.
Respirez profondément, car ce qui arrive maintenant pourrait vous transformer en ninja du bien-être. Petit Manu qui est une pile électrique.
Oui, oui, bon,
ça lui fera pas de mal.
Je suis pas tout seul, il y a aussi Kevin Carty qui fait des super interviews aussi, pour reconnaître.
Ponari a décidé de nous initier à un art ancestral, enfin presque, celui de vivre mieux grâce à l'esprit ninja. Esquiver le stress, garder son calme en toutes circonstances et cultiver la zen attitude même face aux énergivores avec Ponari.
Exactement, oh, la jolie Ponari.
Et retrouver la chronique bien-être.
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois on a failli pleurer d'émotions.
La chronique bien-être de Ponari.
Aujourd'hui, on va parler bien-être, mais façon ninja. Oui, oui, parce qu'on pourrait méditer comme des moines, respirer comme des yogis, mais avouez que vivre comme un ninja, ça a quand même beaucoup plus de style. Alors, comment appliquer la philosophie ninja dans notre vie de tous les jours? D'abord, être ninja, c'est savoir disparaître quand il faut. Par exemple, quand un collègue vous dit « Tiens, tu peux me remplacer pour cette réunion ?» Le ninja sourit intérieurement et pouf, il n'est déjà plus là. C'est ça le premier pilier du bien-être ninja, savoir esquiver les situations énergivores. Protéger son énergie, c'est un art martial. Deuxième compétence ninja, le silence stratégique. Le ninja ne parle pas pour ne rien dire. Il observe, il écoute, il calcule. Dans une discussion familiale tendue, plutôt que de débattre pendant 45 minutes pour savoir s'il faut dire chocolatine ou pain au chocolat, le ninja prend une bouchée de la viennoiserie. Il ferme les yeux et puis il dit « Je choisis la paix » et tout le monde se tait. Ça, c'est du pouvoir mental. Troisième talent, la souplesse. Et oui, les ninjas savent se faufiler partout. Ils sautent, ils roulent, ils esquivent. Dans notre version moderne, ça donne attraper son bus en ramenant son café sans renverser une goutte, ramasser un objet tombé sans faire ce bruit de genou qui dit « Ah, mince, j'ai vieilli ». Changer de conversation au vol quand quelqu'un se met à parler d'impôts. Souplesse, adaptation. Votre corps et votre mental vous remercieront. Quatrième règle, ninja, maîtriser ses émotions. Et oui, le ninja ne s'énerve pas. Même lorsqu'il marche pieds nus et se cogne l'orteil contre le coin du lit, l'épreuve ultime du self-control, il respire, il canalise. Alors que toi, tu te souvenais déjà des 12 grossièretés prête à sortir à ce moment-là. Le ninja intérieur, c'est celui qui nous évite de ruiner notre karma pour un meuble Ikea. Cinquième point, la discipline, mais avec humour. Un ninja, il s'entraîne tous les jours. Et oui, mais il ne se juge pas. Vous voulez devenir un ninja du bien-être modernisé? Commencez simple. 5 minutes de respiration le matin, esquivez une personne toxique par jour et offrez-vous un moment disparition ninja sans culpabilité, aussi appelé pause pour soi. Parce que oui, le ninja, c'est prendre soin de lui. Il se repose, il recharge, il médite, ou parfois, il mange du chocolat en secret sans que personne ne le voit. C'est aussi ça, la maîtrise. Et aujourd'hui, je vous le dis, inutile de vous habiller en noir, de faire des roulades dans le salon et de terroriser votre chat. Être ninja du bien-être, c'est plus simple. Parler moins, respirer plus, se protéger des voleurs d'énergie, choisir ses batailles et garder son calme, même dans les files d'attente. En bref, soyez doux, soyez malin, soyez rapide à vous préserver et lent à vous énerver. Et oui, c'est ça le secret. Le monde n'a pas besoin de super-héros bruyants, il a besoin de ninjas zen qui avancent avec humour, légèreté et autodérision.
Merci Ponari. On estime qu'il y a entre 500 et 650 millions de pratiquants d'arts martiaux traditionnels à l'échelle mondiale. Selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, en 2020, 2,2% des Français de 15 ans et plus ont pratiqué des sports de combat ou des arts martiaux. Le judo montre un maintien fort de ses licenciés avec plus de 530 000 en 2024. La Fédération française de karaté affiche une forte croissance de près de 17% du nombre de licences entre 2022 et 2024. Et vous ? Est-ce que vous avez pratiqué des arts martiaux, petit Manu ?
Ah oui, quand j'étais plus jeune, j'avais fait du kung-fu, du judo, et aux Olympiades, dans le 13e arrondissement, où il y avait Navarro, Roger Hanin, et ben, moi j'étais au stadium, j'avais fait du kung-fu. Je connaissais même la personne qui tenait le stadium, c'était un de mes amis d'école à l'époque, et ben j'avais fait du kung-fu.
Et t'as été jusqu'où ?
Oh non, mais c'était pas l'école, mais c'était la mère de mes amis à l'époque quand j'étais à l'école qui tenait le stadium là-bas, dans le 13e. Après il a déménagé.
Et t'as pas fait du MMA ?
Ah bah ça c'est après, oh là là, un laps de temps après. Mais si j'en ai fait.
Sportif, hein.
Non, mais j'en avais fait pour effectivement mon propre équipe, de mon équipe musicale. On m'a dit, tiens, Emmanuel fait du sport. Et effectivement à l'époque, je m'étais entraîné, j'avais été dans un club où il y avait de la boxe, il y avait le MMA. Effectivement pour mon premier clip, La Fille du Soleil, on avait même fêté ici. Et j'ai arrêté à cause du Covid et j'ai pas repris depuis. C'est vrai, mais c'était un laps de temps plus tard.
Je vais arrêter de t'embêter alors.
Non, j'étais débutant, mais ceci dit, ma première radio sportive, au début, quand j'ai commencé la radio, c'était sur le sport en Ile-de-France, je faisais des interviews sportives à l'époque, bien sûr.
Et t'as interviewé qui ?
Des jeunes personnes inconnues qui faisaient de la radio, qui venaient à la radio à l'époque où j'avais été, mais sinon, non, j'avais fait de la MMA, tu me rappelles, Didier, pour mon premier clip,
t'avais fondu et tout, je me rappelle.
Pas du tout, moi,
je faisais... perdu du ventre.
Oui, mais je faisais des drainages, des entraînements,
Et le McDo après, ça n'a pas trop aidé.
Non, pas du tout, parce qu'après, j'avais des super courbatures, parce que quand on fait du sport, on n'a pas l'habitude, et le corps réagit. Ça veut dire que le corps n'a pas l'habitude de travailler. Et après, on est bien, mais on est vachement fatigué, on a envie de faire une sieste, peux-tu dire, Didier, après quoi.
Bon, et Marie-Christine, t'as fait des sports de combat ou pas ?
Rien du tout.
Jamais.
Rien du tout.
Non, il y a un état d'esprit.
Le sport calme.
Calme.
Oui, moi je fais de la relaxation.
Ah, mais on peut
du vélo électrique.
Ah, c'est bon pour les abdominaux.
Et Kevin ?
Moi j'en ai fait un peu, mais à l'école.
Ah, ça
du quoi ? Karaté, judo ?
Plus du judo, ouais.
Moi je crois que j'ai fait un peu de judo.
Ah.
J'ai dû avoir même une ceinture.
Ah, c'est bien.
Rose à paillettes.
Il n'y a pas rose.
Alors j'ai pas eu de ceinture.
Non. Et en même temps.
Alors j'ai piqué la ceinture, j'ai pas qui.
Ah ouais. Et je pense aussi, on en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui font du tai chi, qui font des sports d'arts martiaux aussi. C'est beaucoup pour entre la sérénité et. Non, je pense, il va peut-être nous en parler, du tai chi, comme ça, tout ça. Comme ça, c'est des sports, la sérénité, c'est très important.
Mais le MMA, c'est un sport de combat.
Ah oui, oui. Il y a des grands sportifs.
Il y a des règles dedans. Sauf qu'il n'y a pas de règles.
Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins permis. Moi, je voyais des champions que j'étais. Alors, évidemment, moi, j'étais le seul artiste. Mais vraiment, ils ont un esprit. Ils ont des combats. On se voyait. Oh là là, on en parlait. C'était des forts.
Mais c'est pas pareil que les arts martiaux. Ils sont très, très réglementés.
Ah, complètement. Et très surveillés. À la lettre, on ne fait pas n'importe quoi.
Avant d'ouvrir notre page culture pop et jeux vidéo exceptionnellement aujourd'hui avec
Eric
et musical
avec Kevin,
je vous propose d'écouter un titre issu du quiz de Kevin.
Ninja, rap, ninja, ninja, rap, ninja, ninja, rap. go, go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Go, 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 go. Villains, you better run and hide, because one day you might not slide. So choose your weapon, don't slip. Vanilla's in control with the effects of a mic grip. Rocking the crowd the way it should be rocked, with a Miami drop that you like a lot. You know it's hidden like a ninja turtle. When the bass kicks in, you better check the level. The power of the ninja is strong, fighting all creeps until they're all cold gone.
Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Go, 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 go. Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go.
Ouvrons notre page culture pop, musicale et...
vidéo.
Jeux vidéo.
À la bonne heure.
Les ninjas, ces maîtres de l'ombre, ont inspiré des films, des mangas, des légendes et bien sûr, bah, la musique aussi. Car oui, derrière le masque noir et les katanas scintillants, il y a aussi tout un imaginaire sonore entre rythme percussif, référence pop et hommage plus ou moins sérieux à ces guerriers insaisissables. Alors affûtez vos oreilles comme une lame de shuriken.
Oh là là. J'adore, j'aime bien les expressions qu'il emploie, Didier. Hein, vraiment très très fort. T'as vu, Marie-Christine, il est vachement fort. Hein,
il est très très fort.
Ah, on est tout oui. Alors là, j'avoue, on s'incline par le talent.
Quelles sont les chansons qui parlent de ninja? La réponse dans le quiz de...
Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz, 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 ah, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais
Et les ninjas en chanson, ça donne quoi? Eh bien, je vous ai sélectionné quelques titres dans ce quiz musical. À vous de reconnaître, bien évidemment, l'artiste qui passe à l'antenne. On commence avec un rappeur américain. Est-ce que vous l'avez reconnu?
Question, c'est pas un certain Sidney?
Ah, bien tenté, mais c'est pas lui.
Ah,
en fait, Sidney était animateur,
ah,
pas
oui.
Rappeur.
Je pensais que c'était lui, ça ressemble, donc c'est pas lui. Bon, moi, je me suis trompé.
Mais bien tenté. En tout cas, c'est un titre qui date de 1991. J'étais pas né.
C'est pas les Tortues Ninja?
Oui, ça a un rapport avec ça, tout à fait. Ça a un rapport avec les Tortues Ninja. Mais le rappeur, c'est qui? Il y a Vanille dedans, mais c'est pas Vanille dans le nom.
Vanille. Alors Kevin qui donne toujours des trucs très simples.
Non, mais c'est,
c'est vanille avec un A. Vanilla.
Voilà.
Vanille.
Et ensuite, glace. Oui, vanilla, mais après il y a glace, mais en anglais.
Tu peux dire Kevin, c'est un parfum. qu'on réfléchisse un petit peu quand
tu
même.
Nous apprends des choses, alors là,
on est... Non, c'est le rappeur Vanilla Ice. Ça vous dit quelque chose?
Ah non, non,
ça nous dit rien.
Anecdote, on apprend, merci, thank you very much.
Donc là, c'est à la vanille, petit Manu.
Oui, oui, j'avais compris. Mais tu nous apprends des choses, merci beaucoup, Kevin.
Et oui, un Vanilla Ice avec Ninja Rap, chanson de 1991. Une chanson écrite pour le film Teenage Mutant Ninja Turtle 2. The Secret of the Hose, qui est sorti en 1991. Alors la chanson, le clip accompagne la scène où les Tortues Ninja rejoignent Vanilla Ice sur scène pour se battre en rythme. Est-ce que vous connaissez les noms des quatre tortues?
Michelangelo.
Oui, c'est ça, je crois.
Donatello.
Oui.
Amenu maintenant.
Ah non, non. Ah, bah je préfère me taire parce que ça sera la cata. Continue, Didier.
Il y en a un, il porte le même prénom que DiCaprio.
Leonardo.
Leonardo.
Voilà. Et Raphaël.
Voilà, voilà.
Raphaëlo.
Voilà.
Raffaello plutôt.
Voilà. Oui. Et je crois qu'ils aimaient beaucoup manger le fromage. Ça, je peux le dire. Voilà.
Les pizzas, non?
Les pizzas, c'est ça, les pizzas. Et Raffaello. Ils adoraient ça, quoi. Les pizzas, tout à fait.
Et cette chanson, c'est aussi une manière de dire que les ninjas sont forts, qu'ils sont stylés, qu'ils combattent avec énergie et que la musique de Vanilla Ice donne le tempo. En fait, c'est du rap cartoon, si vous voulez.
Ah, c'est original, quoi. Ça sort de l'ordinaire, j'ai l'impression.
Exactement. Et aussi, le ninja, c'est également un personnage furtif, discret et invisible. C'est ce que nous prouve ce rappeur originaire de Marseille. Est-ce que vous allez le reconnaître ?
Il a plaqué pour un prince charmant, grand musclé, gros bolide allemand. Cultivé, riche et élégant, il avait les pédigrés d'un super amant.
Ça commence par un S soprano.
Tout à fait,
voilà, soprano. Voilà.
Exactement, soprano, avec cette chanson intitulée Ninja. Alors, dans cette chanson, il s'inspire du ninja, mais il ne l'évoque pas en tant qu'art martiaux au sens littéral, mais il évoque le ninja comme une image poétique pour décrire une rupture, un départ inattendu et une trahison subtile. Je vous propose qu'on écoute le refrain de cette chanson.
Comme un ninja, ja, 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 ja. Il est parti comme un ninja, ja, 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 ja. Tu l'as largué pour une latina, grande brune gaulée comme une Rihanna. Robe moulante, prof de Zumba. Oli, elle t'a fait croire que t'avais 20 ans. Ta femme parfaite t'en rêvait. Elle avait tout ce que l'autre n'avait pas. Tu offrais du Dolce. T'as tout fait pour qu'un jour tu lui mettes la bague au doigt. Toi, toi. Mais dès qu'elle a vidé ta visa, za, za, elle est partie comme un ninja.
Quelle ambiance hein, dans le studio.
Il a zouké, petit man.
Ah, mais on a bien dans sa pack. Mais j'ai l'impression que c'est symbolique quand même le message qui veut passer.
Tout à fait.
Non, mais c'est rythmé en tous les cas.
Et on passe maintenant à un groupe sud-africain originaire du Cap. De qui il s'agit à votre avis?
I'm a ninja. Yo, my life is like a video game. My main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark. I'm ready to
go. Go ninja, go.
Alors c'est un groupe qui s'appelle Die Edward. Est-ce que vous connaissez, ça vous dit quelque chose?
Non, 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 mais c'est critique.
Je l'ai découvert en préparant la chronique, ce groupe.
Ah bah non, on découvre.
Et cette chanson s'intitule Enter the Ninja.
Et ça vient de
2010.
Afrique du Sud.
Voilà.
D'accord.
Toi, c'est, tu connais le Cap?
Ah oui, oui, mais...
Enfin, ne serait-ce que de nom.
Ah oui, de nom, effectivement.
Et dans cette chanson, le groupe évoque l'idée selon laquelle le ninja, c'est quelqu'un de rapide, agressif, imprévisible, et que le ninja symbolise ici la maîtrise, la survie, la débrouille, l'efficacité, c'est ce que nous avons évoqué tout au long de l'émission. Et il y a aussi l'idée de dire que le ninja, c'est un super-héros trash. Il représente aussi la Zef culture. Ça vous dit quelque chose, la Zef culture?
Zef, c'est la culture.
La
Z. Zef culture.
La maîtrise.
C'est un mouvement sud-africain,
ah, ouais.
Pop trash, ah. Qui mêle esthétique kirsch, code de banlieue blanche pauvre, attitude provocatrice et des références au hip-hop, au rave et aux arts martiaux. Je vous propose qu'on écoute un extrait de la chanson.
You get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the night. Just a man with the will to survive. My blade swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy. Don't play with me. I work my mark saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin to the yang. Totally hot tech ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I've never got nothing in my hand.
Except the microphone, big dreams and a plan. Fire, Thor, King, Skywalking, like a ninja. The coolest song I ever heard in my whole life.
Et on termine avec un chanteur français.
Devenir un vrai ninja, mon petit Nicolas.
Nicolas.
Ah
non,
oui.
Non, pas tout à fait.
Non, et ça sortait un banard.
Non, non, pas non, tout à fait.
J'ai pensé à Bernard Minet avec l'équipe de Dorothée.
Alors, effectivement, c'est un rapport avec Dorothée.
Ah, je m'étais pas trompé, je voulais te poser.
J'allais dire, moi, Chantal Goya en masculin.
Je voulais te poser la question. Voilà, je préfère. Donc, je m'étais pas trompé. La seule chose que je connaissais avec Dorothée.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, Jean-Paul Césarini?
Non.
Non.
Il chantait des génériques de dessins animés.
Ah,
oui, tout à fait. Tout à fait. Notamment Nicky Larson.
Ah, d'accord.
Ah.
Ah, c'est beau précisé.
Et cette chanson s'intitule L'Académie des Ninjas.
Ah, oui.
Ah, bah, tu t'en souviens.
Ah, bah, ça te rappelle des souvenirs,
C'est...
Tu regardais pas un petit manuel L'Académie des Ninjas?
Non, je reconnais.
Ça passait en 1962.
J'étais pas encore né. Non mais j'ai découvert encore. Non mais c'est vrai.
Non moi non plus.
Bon non on était. Et non ça mais c'est bien de le remémorer en tous les cas.
Et vous connaissez Ninja Boy?
Non.
Ah bon?
Bah non, évidemment.
C'est qui? C'est dans le même dessin animé?
Ouais ouais.
Et ben en fait c'est le nom, enfin c'est la traduction du titre Nintama Rantaro.
Ah,
c'est
d'accord.
Un dessin animé. Enfin un dessin animé des années du début des années 90.
C'est le protecteur de Barbie.
Et c'est de quel pays à votre avis?
Bah le Japon.
Bah le Japon, voilà. Oh là là. Je crois que t'as la chance d'avoir été Didier. Tu t'es rendu en vacances.
Presque un mois.
Oh là là. Et ça va, t'as bien. Tu regardes un beau souvenir de ton voyage là-bas.
Ah ouais, c'était bien, c'est un pays complètement à part. Hein.
Et ça doit reposer, j'imagine, là-bas.
J'étais avec un ami qui avait laissé son portefeuille dans un bar, il m'a dit, oh, on reviendra demain, je suis fatigué. On est revenu le lendemain matin, le portefeuille était toujours là. Hein.
Putain, c'est fou, quoi. Ouais. Donc, pourquoi ils ont une mentalité? Ils ont une mentalité.
Dans des centres commerciaux, j'ai dit, mais pourquoi les gens, ils posent leur sac en dehors du centre commercial? Ah, rien, c'est leurs affaires avec leur portefeuille. Mais ils n'ont pas peur de faire leur cause comme... Non, pas du tout.
Ah, ouais, non, mais comme quoi, il y a ça. Encore des pays... Non, mais c'est vrai que c'est...
Non, fou, mais ça veut dire qu'il n'y a jamais de délinquants. Comment
il y a très, très peu de délinquance au Japon.
Ah, bon? Ah, ouais, peut-être ça doit être comment
surveillé. Son téléphone. Il avait aussi laissé son téléphone portable dans un bar. Il l'a récupéré le lendemain.
Mais comment? Oui, enfin, dans un bar, bon, à la limite, le serveur est récupéré.
Non,
mais...
Carrément non, il était à la place où il l'a laissé la veille. En fait, les Japonais vont pas le toucher. Ils
ah
le
ouais.
Ils le touchent pas du tout.
Ah carrément, c'est une.
Tu peux laisser un portefeuille, il sera. C'est très rare s'il va être volé. Dans la rue, tu le retrouves le lendemain à l'endroit où tu l'as laissé tomber.
Donc il n'y a pas besoin de police.
Ah bah ouais. Quoique.
Bon, il y en a toujours un petit peu. Tiens, je vais essayer de perdre petit Manu pour voir si on le retrouve.
Ah non, non,
ouais,
bah,
oui.
Non, non, moi et je oui. Dois la parole. Hein. Non, non, je parle, je m'exprime. Non, mais c'est bon à savoir. Voilà. C'est encore un des pays où il y a encore du respect.
Par contre. C'est très mal vu de manger dans la rue.
Ah.
Moi, j'étais avec un ami qui m'a dit, par contre, ça se fait pas, ne mange pas en marchant, ils aiment pas ça du tout.
Ah,
il faut que tu t'assoies et que tu manges.
Non, mais je te signale que dans les pays musulmans aussi.
Non, c'est pareil.
Ah bon, ça se fait aussi.
Éternuer, tout ça, pareil, ça se fait pas.
Ah bon? Ah d'accord, non mais c'est toujours bon.
Si Manu, il sera éjecté du pays.
Oh là là, pour ceux qui ont des petits problèmes d'allergie. Non, non mais c'est bon à savoir.
Non mais c'est bon, chaque pays a ses côtés.
Exactement, sa façon de vivre, la coutume, la religion aussi.
Petit Manu cherche un pays où il peut parler toute la nuit et toute la
journée. Oh non, non, non mais généralement la nuit je dors, comme on dit la nuit pour ton conseil.
Tu m'as dit que tu parlais en dormant.
Alors une fois ça m'est arrivé.
Oui, une fois mais ça a duré 12 heures.
Ah pas du tout, j'ai pas le souvenir, mais imagine les gens qui sont somnambules ou qui parlent la nuit des fois, ça peut arriver beaucoup plus fréquemment de moi. C'est l'inconscient.
Parce que là, on dirait pas, mais tu dors.
Ah, oui, mais en revanche, faut jamais réveiller quelqu'un qui est somnambule qui parle, parce que il peut avoir des problèmes après. Et ça, faut le savoir. Hein. Reprends.
En tout cas, avant de terminer, quelques infos sur la chanson que vous avez entendue, l'Académie des Ninjas. C'est une chanson qui raconte la vie d'une école de jeunes ninjas, des élèves apprentis combattants, maladroits, mais déterminés, avec des entraînements loufoques, des missions farfelues. farfelu. Et en fait, c'est le quotidien d'une bande de garçons qui rêvent de devenir de grands ninjas, mais qui sont encore loin du compte.
Oh, ben avec le service militaire, on va refabriquer des ninjas.
Eh ben merci Kevin.
Je te remercie.
On va écouter un titre en entier.
Eh bien moi, je vous propose d'écouter Soprano, Ninja.
Il a plaqué pour un prince charmant, grand musclé, gros bolide allemand, cultivé, riche et élégant. Il avait le pédigré d'un super amant, l'homme parfait, l'homme rêvé. Il avait tout ce que l'autre n'avait pas. Il t'offrait du LV. T'as tout fait pour qu'un jour il te mette la bague au doigt. Doigt, doigt. Mais dès qu'il a eu son premier soin, 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 il est parti comme un ninja. Il est parti comme un ninja, ja, ja, ja. Il est parti comme un ninja, ja, ja, ja. Il est parti comme un ninja, ja, ja, ja. Tu l'as largué pour une latina, grande brune gaulue comme une Rihanna. Robe moulante, prof de Zumba. Au lit, elle t'a fait croire que t'avais 20 ans. Ta femme parfaite t'a rêvé. Elle avait tout ce que l'autre n'avait pas. Tu offrais du Dolce. T'as tout fait pour qu'un jour tu lui mettes la bague au doigt. Toi, toi. Mais dès qu'elle a vidé ta visa, za, za, elle est partie comme un ninja. Parfait, en amour rien n'est parfait. Tu envoies tous tes regrets à ton ex en espérant le revoir. Voir, voir, ton message est resté en nous un soir, cinq soirs, dix soirs. Car il est parti comme un ninja.
Soprano Ninja.
On continue cette émission par de la culture.
Pop.
C'est un des ninjas le plus connu du monde des jeux vidéo et 40 ans après, il n'a pas pris une ride. Il s'agit de Joe Musashi de la franchise...
Bah des ninjas...
Shinobi.
Shinobi. Shinobi, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça
actuellement, le célèbre ninja du jeu vidéo fait encore parler de lui avec la sortie du jeu Shinobi Art of Vengeance. Le pitch du jeu donne vraiment envie et montre que le héros du jeu n'a pas dit son dernier mot. Vous incarnez Joe Musashi et vous découvrez votre village réduit en cendre et votre clan transformé en pierre. La rage de la vengeance vous gagne et vous vous lancez dans une quête prêt à affronter le mal et venger votre clan. Mais en attendant, on calme nos ardeurs et on écoute notre ninja chroniqueur de la pop culture nous raconter l'origine du jeu vidéo Shinobi.
Ah, l'époque de la bonne arcade. Encore aujourd'hui, elle déchaîne les passions. Et grâce à cette expérience, et notamment la société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo Sega, on a pu découvrir de super titres. Par exemple, en 1987, on a pu découvrir Alex Kidd The Lost Stars, un jeu de plateforme où on incarne Alex évoluant dans différents mondes. Petite anecdote à ce sujet, avant Sonic, Alex Kidd était la mascotte de Sega. « On a pu découvrir aussi un jeu de sport, le volley plus exactement, avec le jeu Ice Attacker. Et parmi ces jeux, on a surtout découvert le jeu Shinobi, dont je vais vous dévoiler les origines. Shinobi est une franchise de jeux où vous incarnez un ninja. Cette saga compte en 2025 13 titres et est passée des bornes d'arcade aux consoles de salon jusqu'aux consoles portatives. En 1987, Noriyoshi Oba, producteur, travaille pour Sega. Sur commande, il imagine un personnage de jeu vidéo, un ninja capable d'utiliser des armes dont le célèbre shuriken, de se déplacer comme un ninja, et d'utiliser des pouvoirs mystiques. Dès lors, le personnage créé, le joueur a la possibilité d'être dans la peau du ninja Joe Musashi, du clan Oboro, chargé de sauver des otages kidnappés par l'organisation criminelle Zid. La qualité est là. On a un très beau graphisme, aux superbes couleurs, des environnements changeants, on passe des docks industriels au temple. Imaginez cela sur un écran de borne d'arcade, hein, c'est juste époustouflant. Un gameplay facilitant l'utilisation des katanas et combats corps à corps. Et pour couronner le tout, on a une super musique causée par Yuzo Koshiro. Face au succès du jeu, Sega décide de développer le jeu sur console comme la Master System. Les fans de la première heure s'en souviennent sans doute, n'est-ce pas? Pour des contraintes techniques, certains éléments perdent en qualité, couleurs et certains personnages modifiés, mais l'essence même du jeu reste. Le jeu se décline sur d'autres consoles et même sur les premiers PC et s'adapte selon la capacité de la machine. Mais que l'on se rassure, on a toujours les mêmes ennemis, le même boss, du lanceur de feu au gigantesque hélicoptère, les points bonus à chaque fin de ninja permettant de lancer des shurikens pour gagner des points supplémentaires, les fiches missions. On retrouve même des jeux qui copient la saga Shinobi, mais celui-ci reste indétrônable. À la fin des années 80 et au début des années 90, on assiste à une nouvelle intrigue grâce au lancement d'une nouvelle console Sega, la Mega Drive, où notre ninja Joe Musashi doit sauver sa fiancée kidnappée avec pour titre The Revenge of Shinobi. Qui dit nouvelle intrigue dit nouveau jeu, mais aussi de nouvelles techniques que le personnage possède. Un vrai régal pour les gamers. Le succès de Shinobi s'est vu transporté vers d'autres aventures, avec un chien par exemple dans un univers futuriste avec des cyborgs. Les mises en scène gagnent beaucoup, mais le rythme reste moins électrique, il faut se l'avouer. Sega en fait son personnage phare à tel point qu'à chaque lancement de console, le ninja est là. On se rappelle tous de la Game Gear. Je vous parlais au début d'Alex Kidd. Sachez que le personnage a eu le droit à son jeu dans l'univers de Shinobi, une version assez humoristique, tout en étant un hommage quand même. À la fin des années 90 et le début des années 2000, Shinobi n'est plus un jeu en 2D et en pixel art. On arrive dans un design 3D avec des scènes cinématiques en prise de vue réelle. Le ninja Joe Musashi laisse place à d'autres ninjas. Nous suivons alors de nouvelles intrigues. À la sortie de la Nintendo 3DS, on a le droit à un épisode où l'intrigue sur l'ancêtre de ninja Joe Musashi qui permet de renouer avec le passé du jeu, mais on reste éloigné graphiquement du tout le début. Comme tu le disais Didier, il y a quelques mois, le jeu Shinobi est revenu en force avec une esthétique 2D moderne peinte à la main et une réorchestration des musiques de culte du jeu. On retrouve Joe Musashi avec une multitude de possibilités dans le jeu pour le joueur. Sur ce, amis de la pop culture, entre le moment où vous allez revêtir votre tenue ninja et le moment où je vais m'équiper de mon katana et de mes shuriken, il restera toujours du temps pour que Sega développe encore plus la franchise Shinobi, car Sega, c'est plus fort que toi.
Sega, c'est plus fort que toi.
Merci Eric. Et on continue à parler jeux vidéo et ninjas depuis les années 80. Les ninjas sont omniprésents dans les jeux vidéo et les chiffres le prouvent. Plus de 200 titres de jeux listés sur Sens Critique comportent des ninjas comme personnages centraux. C'est même pas des personnages secondaires. La saga Naruto Ultimate Ninja à elle seule s'est vendue à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde selon Bandai Namco. Retour sur les derniers jeux vidéo qui parlent de ninjas.
Exactement.
Didier mange un champignon, sauve une princesse, sort d'un tuyau. Rassurez-vous, il joue aux jeux vidéo.
Je vais donc aujourd'hui vous parler de Zelda.
Tombez la chemise.
Non, non mais non, non, c'est Zelda, pas Zelda.
Zelda, oh là là, excusez-moi, c'est l'émotion. Qu'est-ce que... Oh, mais je crois qu'il est tombé dans le trou.
Alors je vous l'ai dit, le jeu Shinobi n'est pas le seul jeu vidéo de ninja sorti cette année. Entre infiltration feutrée, lame affûtée et tradition ancestrale japonaise, les jeux centrés sur les ninjas connaissent un véritable boom. Ça tombe bien, c'est le thème de notre émission.
Ah bah oui.
Trois autres titres ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers temps. Alors, il y a récemment le jeu qui est sorti Ghost of Utah du studio Sucker Punch. Dans ce jeu d'action-aventure à l'ambiance féodale, on incarne Atsu, la fille d'un ancien samouraï hanté par son passé en quête de vengeance. Celle-ci aura affaire au cours de sa quête vengeresse à des samouraïs déchus, mais aussi à un groupe de ninjas assassins, le clan du renard à neuf queues. C'est le nom, hein.
OMC.
Ce titre exclusif à la PlayStation 5 brille surtout par ses qualités graphiques, ses décors somptueux, sa narration poétique et son système de combat à la fois fluide et exigeant. Il y a ensuite un deuxième jeu, c'est Ninja Gaiden. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Non, on découvre.
Pas vraiment.
Pas vraiment. C'est...
Bah, c'est une licence culte de l'action hardcore qui a aussi fait son retour avec un quatrième volet le mois dernier. Ici, pas question de fioritures, c'est nerveux, rapide, précis. Un vrai test de réflexe et de maîtrise. Un jeu avec un gameplay millimétré comme sait le faire le studio Platinum Games qui a fait Bayonetta. Vous avez certainement entendu parler, peut-être pas Petit Manu parce qu'il en est à Super Mario Bros 1
et à
Pac-Man.
Mais il y en a qui sont fans, qui s'y connaissent vraiment à la perfection. Dans le monde, faut le respecter.
Et ils ont fait The Wonderful 101.
Mmh.
En anglais, The Wonderful.
Plusieurs.
101, on dit.
105, quoi, 101.
105.
105.
Comment on dit 101 en anglais ? Kevin.
Alors, 100.
Donc vous retrouverez des boss spectaculaires et cette capacité unique à transformer le joueur en véritable tourbillon de l'âme, une valeur sûre pour ceux qui aiment les défis relevés. Et pour les allergiques à la 3D, moi un petit peu, hein, j'aime bien les jeux 2D.
Ah, tu t'y connais, au moins t'as des connaissances, il faut reconnaître.
Eh ben, y a même un nouvel épisode en 2D, Ninja Gaiden Rage Bound, sorti en juillet dernier. Jeu très proche du jeu Shinobi dont Eric vous a parlé, mais en plus difficile.
Pour tous ceux qui sont fans et qui suivent à la lettre des grands passionnés dans le monde, la planète, c'est important d'avoir une pensée pour eux.
Et bien sûr, difficile de parler de Ninja sans évoquer le tout dernier jeu. Vous en avez entendu parler forcément, non ? Vous n'êtes pas fort en jeu vidéo,
ah,
hein ?
Non, j'avoue.
Assassin's Creed, avec Assassin's Creed Shadows, dans cet épisode situé au... Dans quel pays ?
Oh bah au Japon.
Voilà. Ubisoft mêle son savoir-faire habituel en infiltration à des mécaniques propres au Nindo. Nindo, c'est quoi ? Eric aurait pu nous le dire, mais non. C'est le code de vie que chaque shinobi s'impose. Ombre, gadget, coup silencieux. Le jeu séduit par son monde ouvert, extrêmement riche. Son duo de protagonistes complémentaires, une shinobi et un samouraï. Et l'attention portée aux détails historiques. Un mélange réussi entre action, discrétion et épopée narrative. Bref, que vous soyez adepte d'aventures de challenge ou d'infiltration pure, les jeux de ninja sont plus en forme que jamais.
Bien. Et puis on vous remercie beaucoup.
Ah, parce que personne ne remercie.
On t'écoutait avec la plus grande... Attention, on n'entendait justement pas une bouche voler. Et on remercie très reconnaissant Didier,
très
vraiment,
concentré.
À la lettre, à la grande concentration. Didier, qu'est-ce que t'en penses, Kevin, il a assuré.
Tout à fait d'accord.
T'as intérêt à jouer aux trois jeux. Hein.
Oh là là, t'as beaucoup plus d'expérience que moi. Après, dans le monde, il y en a...
Bon, alors le problème, c'est que t'as mis 39 ans à faire Super Mario Bros 1.
Non. Ah non, mais moi, je suis pas... Non, mais il y en a qui jouent. Après, faut respecter. Tout dépend à qui on a affaire. C'est ce qui fait les différences dans le monde, bien évidemment.
Et cette émission sur les ninjas, c'est déjà fini.
Oh non.
Bon, bravo à toutes et tous, hein, parce que vous avez réussi à tenir ce thème, c'était pas facile.
Ah bah, c'était... On a pris des tas de choses. Si on a appris, je pense que dans le monde, ça va être la même chose. Hein.
Ça a été une révélation.
Eh ouais, on a pris, on s'est
grâce aussi à notre invité, hein, Kassem Zoukari.
Carrément, on doit beaucoup.
Qui a accepté d'intervenir dans
l'émission. Et on le remercie, on est très reconnaissant d'ailleurs.
Si vous avez loupé le début de l'émission, ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios, dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite le proverbe suivant. Dans le monde des ninjas, ceux qui ne respectent pas les règles et transgressent les lois sont considérés comme des moins que rien. Mais ceux qui ne pensent pas à leurs compagnons sont encore pires.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
On va parler de raclette. Donc ça sera la nourriture.
T'as le pas la raclette.
Non, la raclette avec les fromages.
C'est que tu l'utilises beaucoup pour ta nourriture.
Non, pas du tout. Avec la raclette, je pensais les fromages. Et quand on fait tomber le fromage, on dégage. Ah, non, c'est la raclette alimentaire, culinaire, faut préciser.
Salut à toutes et à tous.
Salut.
Bonne semaine. Cachez le bien pour profiter.
Ok, let's stop. Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuite destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.